Couture dans le mide, présenté par Aluminium Perron. Découvrez les rampes en verre et aluminium, pergolas, murs d'intimité et les nouveaux pieux à auto-installation. Aluminium Perron.
Couture dans le mide.
En vacances.
Radio X.
Chronique politique avec Rodolphe Osny.
Pour garder ou perpétuer probablement la tradition, ou du moins le lien en lien avec la chronique de couture, l'émission de couture, oui. Excuse la chronique, mais plutôt l'émission, un habitué avec lequel j'ai déjà jasé dans le passé, dans un autre vie, Rodolphe Osny qui est là, salutations.
Bonjour, bonjour Carbo.
Bonjour, bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation, même l'été.
Ben avec plaisir. Écoute, la politique prend pas de vacances, on va pas en prendre non plus.
Ben vraiment pas. Voilà qu'on a un autre député conservateur qui a décidé de lever les feutres. Mais que c'est-il? Se cherche-t-il un meilleur salaire?
Meilleur salaire, non, parce que le salaire d'un député est plus élevé que le salaire d'un sénateur. Mais oui, écoute, c'est toute une nouvelle ce matin. Le député Richard Martel de Chicoutimi, le Fjord, on le connaît bien parce que c'est l'ancien coach dans cette région-là, qui a été élu député conservateur, et ça vient d'être annoncé par le premier ministre Mark Carney, devient, attention, sénateur comme ça. Donc, ça fait, écoute, c'est toute une nouvelle pour plusieurs éléments. Premièrement, un autre conservateur comme ça qui devient maintenant au Sénat, ça enlève un député conservateur. Ça veut dire que la majorité de M. Carney vient d'avoir comme ça un vote de moins qui pourrait comme ça le faire tomber. On sait que M. Carney a une majorité par transfuge, mais qu'elle est très, très mince. Et surtout, et je peux le dire en tant qu'ancien analyste politique, c'est un comté, Chicoutimi-le-Fjord, que oui, était conservateur, mais en grande partie par la qualité puis la notoriété de Richard Martel. Lorsqu'il y aura une élection partielle, on peut se poser des sérieuses questions, à savoir, est-ce que les conservateurs vont réussir à garder ce comté? J'ai des doutes, parce que si on regarde le résultat de la dernière élection en 2025, Richard Martel a gagné avec 34%, Bloc québécois 31%, libéraux 31%. Donc, pour dire que c'est un comté stratégiquement que s'il y avait une élection partielle, on peut penser que le Bloc québécois ou les libéraux pourraient comme ça le récupérer. Donc, on voit comme ça que c'est un fin stratège, M. Carney, finalement, d'avoir fait une pierre deux coups. D'avoir comme ça nommé M. Martel au Sénat, c'est un coup dur pour les conservateurs, pour le leadership, encore une fois, de Pierre Poilievre. Et c'est une circonscription qui, possiblement, peut-être, peut revenir, en tout cas chez les libéraux, ou pour les prochains 6 mois, parce qu'il n'y aura pas au moins d'élection pendant 6 mois. Ben, ça veut dire que les libéraux peuvent avoir comme ça un vote de moins chez les conservateurs.
Pour être nommé au Sénat comme ça, est-ce qu'il a fallu que M. Martel signifie d'avance que ça y tentait, ou c'est Mark Carney qui est arrivé puis qui a dit hey, « je te mettrais bien là, toi ».
C'est un peu un tango. On n'est jamais sûr exactement de comment c'est arrivé théoriquement. Puis là, je parle théoriquement. Il y a normalement un comité qui est là pour évaluer les candidatures. On peut appliquer, mais à la fin de la journée, on ne va pas se le cacher. C'est souvent des nominations qui sont faites à la discrétion du premier ministre. Le comité peut comme ça recommander, évaluer les candidatures. Dans le cas de M. Martel, bon, ben, bien évidemment, il y a une expérience de parlementaire. Il est député comme ça depuis une dizaine d'années. Mais on peut aussi y voir qu'il y a beaucoup de stratégie politique avec cette nomination comme ça d'enlever un député conservateur qui maintenant va au Sénat. Il n'y a que quelques règles. Normalement, c'est qu'il faut que tu aies propriétaire d'un terrain. C'est une vieille règle pour pouvoir être sénateur. On se souvient, par exemple, que Michael Fortier avait dû acheter un terrain dans la circonscription où il avait été nommé, et tu restes sénateur jusqu'à 75 ans. Donc, Richard Martel, je pense, a 65 ans, donc il vient comme ça de s'assurer que jusqu'à 75 ans, ben, il sera pour les 10 prochaines années au Sénat.
Puis niveau de travail, là, est-ce que la job d'un sénateur, c'est plus dur ou plus facile que la job d'un député?
Écoute, il y a moins de partisanerie au Sénat, premièrement, ça veut dire que les sénateurs ont un peu l'indépendance qu'ils veulent, puis c'est pas pour rien qu'on appelle ça normalement la chambre haute. C'est quand il y a un projet de loi qui est voté par les députés, ben les sénateurs l'analysent, peuvent donner leur avis, on appelle ça en anglais le sober thought, ça veut dire avoir un second regard sur certains projets de loi. Et est-ce qu'ils travaillent plus? Non, parce qu'eux ne siègent pas surtout l'été. Je pense qu'ils siègent 3 jours par semaine. Mais ça dépend vraiment de la personnalité des sénateurs. Ça veut dire, il y a des sénateurs qu'on se souvient, par exemple, de Pierre-Hugues Boisvenu, sénateur conservateur qui avait utilisé son siège au Sénat pour continuer son travail concernant les victimes, les gens qui sont les familles, etc., mettre ça de l'avant, le droit des victimes. Ça dépend vraiment de la cause que tu veux mettre de l'avant et ça te donne cette liberté de mettre, de proposer aussi, il ne faut pas l'oublier, le Sénat peut proposer aussi des projets de loi et mettre de l'avant ou être porte-parole de dossiers très importants. Donc, on va voir exactement, Richard Martel, quelle cause il va prendre à cœur, mais on peut aussi dire que c'est normalement, selon les règles, plus des sénateurs indépendants, donc qui peuvent ensuite décider de voter ou de ne pas voter avec les projets de loi concernant qui viennent du gouvernement.
C'est quand même étonnant pareil, mais d'un autre côté, dans une carrière politique, je pense que le rêve de tous, surtout au fédéral, ce serait de finir au Sénat.
Oui, écoute, pour la petite histoire, il y a toujours des histoires que quand on quitte la politique, on vous demande est-ce que vous voulez être ambassadeur ou sénateur. Il y en a qui disent « Ah, je vais être ambassadeur, c'est plus prestigieux. » Le problème, c'est que bon, ben, le prochain gouvernement peut vous enlever. Puis bon, vous restez ambassadeur des fois que 4 ans. Lorsque vous êtes nommé au Sénat, vous êtes là jusqu'à 75 ans. Si vous faites nommer dans 60 ans ou 55 ans, par exemple, ben, ça vous assure quand même une certaine longévité. Donc oui, la réponse d'ancien stratège, si on te propose entre ambassadeur et sénateur, tu prends plus sénateur, tu es plus assuré d'avoir une job jusqu'à 75 ans.
Voilà, c'est une excellente réponse, Rudolph. juste avant le sommet de l'OTAN, voilà que Mark Carney nous arrive avec ThyssenKrupp, la compagnie de sous-marins norvégienne allemande, pour renouveler une flotte de vieux Christie de sous-marins qui ne marche plus depuis les années 60. Est-ce que c'est nécessaire d'acheter des 12 sous-marins comme ça? Puis est-ce que dans ma deuxième question, sous-question, est-ce qu'on va vraiment les utiliser ou on va les laisser pourrir dans le fond de l'eau?
Non. Je pense que tout d'abord, c'est utile parce que tu viens de le dire, le Canada n'a pas acheté des sous-marins neufs depuis les années 60. Les sous-marins qu'on a actuellement, la réalité, c'est qu'on a sur papier, on en a 4. Mais il n'y en a qu'un qui fonctionne, on utilise, et ça fait comme ça depuis longtemps, qu'on utilise des pièces des anciens sous-marins pour réparer les sous-marins actuels. La réalité, c'est que c'est Jean Chrétien qui avait acheté ces sous-marins usagés de l'Angleterre, qui déjà à la base avaient été mis au rancard, ont été un peu réhabilités. Alors, pour te dire la réalité, et surtout, on n'arrête pas de parler de la souveraineté canadienne en Arctique. On parle qu'il y a de plus en plus de traverses, ou en tout cas de transport maritime qui passe par maintenant avec l'Arctique. Il faut que le Canada ait la capacité d'assurer sa souveraineté dans l'Arctique et pour l'instant, avec un sous-marin, on peut s'imaginer qu'on ne l'avait pas. Il ne faut pas l'oublier qu'on a le Pacifique, on a l'Atlantique, on a l'Arctique canadien. Il faut s'assurer qu'on a la capacité de détecter, de patrouiller, de surveiller notre souveraineté territoriale. Donc moi, je pense que c'est une bonne annonce. Mais il y a beaucoup de points d'interrogation. Tu as parlé de 12 sous-marins, ce n'est pas certain. C'est jusqu'à 12 sous-marins. On ne sait pas exactement encore le prix de ces sous-marins. On parle de 40, 50, 60 milliards, ce n'est pas clair. C'est juste qu'actuellement, l'annonce hier de M. Carney, c'est que oui, le Canada a choisi ThyssenKrupp, le consortium allemand-norvégien vis-à-vis du consortium avec la Corée du Sud. Mais les négociations aussi commencent. Parce que le nerf de la guerre est toujours ce qu'on appelle les retombées économiques. On veut s'assurer qu'une part importante de ce contrat sera fait au Canada, que ça donnera des jobs au Canada. Donc, encore une fois, ce ne sera pas pour demain. Et même le calendrier concernant la livraison de ces sous-marins reste quand même à négocier. Est-ce que ce sera en 2035 ou avant? On a aussi des points d'interrogation. Mais est-ce que c'est une bonne nouvelle? Moi, je pense que oui. Écoute, petite histoire, 2019, campagne électorale, moi, je faisais partie de l'équipe d'Andrew Scheer. On discutait déjà de mettre dans notre plateforme le fait qu'on devrait acheter des nouveaux sous-marins. On ne l'avait pas fait parce qu'on ne connaissait pas les coûts. Puis si on avait mis là-dedans, on se serait fait attraper sur, bien évidemment, le coût énorme de ces sous-marins-là. Mais oui, ça fait longtemps, je pense que ça fait depuis 2017, qu'on parle de renouveler notre flotte de sous-marins. Mais on l'a fait juste avant l'annonce de l'OTAN. C'est pas une coïncidence.
Ben c'est ça, justement, le timing de cette annonce-là, juste avant l'OTAN. Je sais aussi qu'il va rencontrer, normalement, Mark Carney va rencontrer ses homologues là, allemands et norvégiens aujourd'hui. Est-ce que ça peut aller plus loin encore comme partenariat entre les pays ou ça va vraiment juste rester au sous-marin?
Non, oui, ça peut aller plus loin. Il ne faut pas oublier que le Canada, les membres de l'OTAN, il y a toujours eu cette problématique d'augmenter les dépenses militaires, que chacun fasse sa part, la fameuse cible de 2 % qui maintenant est en train d'être augmenté. Donc, tout d'abord, M. Carney, pour sa propre crédibilité, devait se présenter comme ça à l'OTAN en disant, bon, ben regardez, on a augmenté nos dépenses militaires et on est en train comme ça de passer des commandes et d'avoir un partenariat maintenant avec l'Allemagne, la Norvège. Ce n'est pas la fin, c'est le début de négociations et qui pourrait aussi avoir d'autres éléments. Il reste aussi un autre problème. On ne sait toujours pas qu'est-ce qui va se passer avec le fameux dossier des F-35 avec les Américains. C'est toujours un dossier en suspens. Mais oui, je pense que du point de vue politique, M. Carney voulait faire cette annonce avant d'aller à l'OTAN. Et oui, est-ce qu'il y aura d'autres partenariats? Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des partenariats avec Saab, avec Bombardier concernant des radars, concernant de la surveillance aérienne. Donc, ça fait partie d'un effort du Canada, mais pas seulement du Canada, des pays de l'OTAN, non seulement de se réarmer, mais d'avoir des collaborations militaires.
Et là, tantôt, on jasait de sénateurs.
Ouais.
D'autres annonces qui s'en viennent.
Oui, écoute, il y a d'autres annonces qui devraient s'en venir parce que, oui, il y a d'autres postes de sénateurs qui sont vacants. Il y a un deuxième sénateur du Québec qui a été nommé aussi en même temps que Richard Martel. Il s'appelle Tom Pitchfield. Pourquoi je te parle de lui? Parce que c'est un ancien conseiller de Mark Carney, un ancien conseiller libéral, mais c'est aussi le conjoint de Anna Gainey, la fille du fameux joueur de hockey des Canadiens. Donc, on voit aussi que c'était peut-être pour faire passer cette annonce un tout petit peu sous le radar en se disant « ça va être Richard Martel, on va beaucoup parler de Richard Martel ». Il y en a un autre aussi qui s'appelle Tom Pitchfield qui vient d'être nommé aussi au Sénat. Lui, c'est un ancien conseiller politique, ancien secrétaire particulier du premier ministre qui va aussi être nommé. Donc, tu vois qu'il y a un tout petit peu de jeu politique, pas seulement pour attaquer M. Poilievre ou le neutraliser, mais aussi pour s'assurer qu'un des leurs est au Sénat.
Imagine. Charles Milliard, en terminant, Rudolph, est-ce que c'est moi où je vois pas beaucoup de publicité là, à l'approche des... Tu sais, ça s'en vient quand même, là, ces élections-là?
Moi, je comprends pas. Puis là, je parle vraiment en termes de normalement, quand tu as un nouveau chef, la première chose que tu veux, surtout un chef qui est peu connu du public, puis on l'a vu dans les médias, on doit avoir comme ça, faire une sorte de campagne de visibilité, une campagne de publicité. On a vu le Parti québécois faire des publicités, on a vu la CAQ comme ça être à l'offensive, on a vu Mme Fréchette, bien évidemment, elle est première ministre, mais qui a utilisé chaque opportunité de se mettre en avant. Puis concernant le Parti libéral du Québec et son chef Charles Milliard, je me pose vraiment des questions. Est-ce qu'ils ont une véritable stratégie? Parce que, comme tu viens de le dire, on est à moins de 100 jours d'une élection. Je n'ai pas vu de campagne de publicité massive. Il n'y a que quelques annonces de candidats qui continuent à faire, puis de temps en temps, ils doivent désannoncer certains candidats. Donc, je me pose véritablement la question, est-ce qu'ils vont manquer de temps, les libéraux, pour faire connaître leur chef? Normalement, la règle numéro un, quand tu vas et que tu as un nouveau chef, ben, tu veux qu'il se fasse connaître, puis normalement, ben, tu fais une campagne de publicité, tu mets des choses de l'avant. Pour l'instant, je trouve que c'est un tout petit peu silence radio du côté des libéraux en termes de campagne de promotion de leur propre chef.
Bien, il m'a dit honnêtement, moi je trouve que c'est une lacune, mais en tout cas, on verra bien. Oui. Là, moi, je trouve que c'est un manque de sérieux, carrément.
Oui, bien, je me pose une question sur son entourage en termes de quelles décisions, surtout que, garde, Paul Saint-Pierre Plamondon, il est en congé là, cette semaine, honnêtement, je pense qu'il fait bien là, de se reposer un tout petit peu avant. Il n'y a pas besoin, lui, d'aller comme ça tout le temps au front. Alors, je me dis, comment ça se fait qu'il ne bénéficie pas d'avoir plus de visibilité médiatique, surtout avec, par exemple, un Paul Saint-Pierre Plamondon qui est en congé?
Tranquille, qui n'est pas là, exact.
Tant qu'à jaser de Charles Milliard, c'était pas dans tes sujets, là, mais j'aimerais ça t'entendre sur la fameuse levée de bouclier face à l'absence de débat des chefs à Québec. Là, au début, c'était Éric Duhaime qui avait lancé ça. Les autres chefs de partis politiques ont embarqué. Là, c'est rendu à la mairie à Québec. Stéphane Lachance, le chef de l'opposition, qui a aussi demandé qu'il y ait un débat à Québec. Puis le maire Bruno Marchand a aussi endossé ça. C'est-tu moins ou un débat à télé, qu'il soit à Québec ou à Montréal, d'un studio, on n'a un peu rien à foutre?
Ben, écoute, je pense que d'un côté, c'est vrai que je suis d'accord avec ton argument, mais d'un autre côté, il y a quand même une problématique de symbole. C'est notre capitale nationale. Normalement, tu veux t'assurer que, bon, ben, dans notre capitale, c'est là qu'il y a des débats. Je comprends que plusieurs des sièges sociaux ou des structures, des gros studios, des compagnies de télévision, que ce soit Novo avec Bell ou que ce soit TVA ou Radio-Canada, leurs grosses infrastructures sont à Montréal. Mais tu te dis, écoute, moi, j'en ai fait des débats. Les débats des chefs au fédéral, c'était souvent beaucoup à Ottawa. Si c'était seulement à Toronto, je pense qu'on aurait grincé des dents. Je me dis que peut-être qu'on est dû aussi pour avoir au moins un débat, surtout qu'il y en aura trois, donc qui sont déjà planifiés. Est-ce qu'on devrait en avoir un quatrième? Honnêtement, je suis pas contre, surtout que je viens de le dire. Les chefs ont besoin de notoriété, ont besoin de visibilité. C'est dans leurs intérêts à tous d'avoir le maximum de visibilité, que ce soit pour Mme Fréchette, que ce soit bien évidemment pour Éric Duhaime, que ce soit pour Charles Millard. Est-ce qu'un quatrième débat serait pas une mauvaise idée? Moi, je pense que oui, surtout que la région de Québec est très importante, pas seulement pour le Parti conservateur du Québec, mais aussi pour le PQ et les libéraux.
Ben, c'est ça.
À suivre.
Rudolphe, merci beaucoup. Est-ce que toi aussi, tu te reposes un petit peu dans l'été?
Bon, tout petit peu, mais disons que je continue à garder un œil parce que ça n'arrête pas.
Et des petites affaires de M. Chose là, qui passe au Sénat en catimini.
C'est ça, un mardi, on ne s'y attendait pas à celle-là. Surtout que le premier ministre est en Turquie.
Vraiment. Hey, merci beaucoup.
Au plaisir.
Salutations. Salut. Ah, je te dis, il y a des petites affaires qui passent rapidement.
Ah, ben l'été, c'est le bon moment pour faire des annonces de même. Il n'y a personne qui suit ça. Là.
Ou plus ou moins de monde. Mais
nous autres.
Nous autres. Ouais, on est quand même bon là-dedans.
On essaye.
Après la pause, qu'est-ce qu'on fait?
Après la pause, on ouvre les lignes.
Ah! Ah ben!
Puis là, on avait promis de quoi la semaine passée, mais on l'a pas fait.
Ligne ouverte sur l'automobile.
On le fait-tu?
Ah oui, on va le faire. Bon, on a du temps. On vient. Ça.
Couture. On fait une petite pause, puis on revient dans pas longtemps.
Dans le mid. Radio X.